Bible de l'humanité, 2, la Perse, chapitre 2, le combat du bien et du mal, le pardon définitif. L'agriculteur est homme inquiet, esprit sans repos, âme en peine. Le pasteur a le temps de chanter aux nuages les fantasques victoires de l'Indra. Il a le temps de suivre au ciel de la Chaldée les longs voyages des étoiles. Mais la nuit, mais le jour, le Perse agriculteur doit veiller, travailler, combattre. Combat contre la terre. Elle est dure, obstinée, ne se rend pas d'un coup. Elle vante au travail ce qu'on croit qu'elle donne. Combat contre les eaux. Les douces eaux tant désirées. Elles descendent souvent furieuses pour ravager, emporter tout. Parfois, elles tarissent tout à coup, bues par le soleil. Ces filles de la nuit évoquées de la terre, il faut, dans ce climat, leur conserver la nuit, les garder abritées par des canaux secrets, une circulation souterraine de travail infini qui fait du laboureur un mineur et un constructeur. Et tout cela fait, rien n'est fait. Il surgit l'enfant délicat, le blé faible, d'un vers si tendre. Il échappe du saint protecteur, se trahit et se voit environné d'ennemis. 100 plantes robustes et mauvaises sont là pour l'étouffer si la main paternelle ne vient leur faire la guerre. 100 bêtes dévorantes arrivent, des monstres qu'on ne peut repousser. Quels ? Non des lions, des tigres, de paisibles troupeaux. C'est le pasteur surtout qui, pour le laboureur, est le maudit. C'est contre lui que le champ est gardé. Le sombre travailleur, du poignard, trace autour la limite protectrice. Il la creuse et c'est un fossé. Il la plante et c'est une haie. Il la borne, y enfonce le pieu, la pierre. Que dis-je ? Sa parole et sa malédiction. Malheur à qui la passera. Guerre éternelle qu'on retrouve partout. C'est elle qui fit le divorce de l'hindou védique et du perse, de l'aria pasteur, de l'aria cultivateur. Le pasteur trouve odieuse, injuste l'appropriation. Il rit des bornes, des fossés. Ces bêtes, malicieusement, se font un jeu de les franchir. La chèvre blesse la haie, la vache y passe à l'étourdie. La douce brebis, en cherchant sa petite vie innocemment, rase le blé qui pointait, ce blé sacré, cette chère espérance où l'agriculteur a son âme. Il faut qu'il le garde, son blé. De plus en plus rêveur et sombre, dans ces bêtes malfaisantes qui mangent moins qu'elles ne détruisent, il croit voir. Il maudit les agents des mauvais esprits, l'armée de la méchanceté, du caprice hors de sens, les jeux pervers de la magie. L'hindou partit vers l'est, mais du nord, un bien autre voisin se révéla, l'affreux pasteur tartare, l'informe chaos des Mongols, démons centaures dont les petits chevaux, d'un instinct diabolique, font partout du champ la prairie. C'est l'empire maudit de Touran, éternel ennemi d'Iran ou de la Perse. Ces noirs sorciers vont, viennent, comme la chauve-souris ou l'insecte nocturne qui gâte et détruit, disparaît. Fixe et lourd au contraire, des fanges de l'Euphrate, vient et revient se coucher sur l'Iran l'immonde dragon assyrien. Le monstrueux reptile qu'adorait Babylone et qui, disent les Perses, ne vivait que de chair humaine. De longs siècles, des milliers d'années qui se passèrent dans ces luttes cruelles, donnèrent au peuple travailleur, d'esprit très positif, une étrange poésie. Il s'éleva à sa conception souveraine le combat constant de deux mondes. D'une part, le saint royaume d'Iran, le monde du bien, le jardin de l'arbre de vie, le paradis, mot qui veut dire jardin, et le vague monde barbare du mal et du caprice injuste. Tout a paru peuplé d'esprits contraires. Entre les steppes rudes où sifflent les démons du nord et les déserts de sable que brûlent les démons du midi, la Perse se jugea avec raison la terre bénie de travail, d'ordre et de justice. Et cela n'est pas un vain mot, un jeu de fantaisie, c'est un ferme propos, une résolution d'être juste. On a parfois de ces moments. Un écrivain célèbre, Montesquieu, dit qu'une fois un vif élan de conscience lui vint, qu'il eut une envie forte et décidée d'être honnête homme. C'est précisément ce moment qu'est la Perse dans l'humanité, une résolution d'être juste. Juste d'abord contre soi-même, contre le vice propre au laboureur, l'économie sordide. Juste dans la maison, pour l'humble serviteur qui ne se défend pas, l'animal par exemple. Les trois purs se plaignent de l'homme injuste qui n'en a pas soin. La plante le maudit. Sois sans enfant, toi qui ne me donnes pas la bonne chose qui me plaît, l'eau. Le cheval dit, n'attends pas que je t'aime et sois ton ami quand tu me montreras, toi qui ne me donnes pas la nourriture et la force pour paraître avec honneur dans l'assemblée de la tribu. La vache dit, maudit sois-tu, toi qui ne me rends pas heureuse, qui ne veux que m'engraisser pour ta femme et ton enfant. Mais ces trois serviteurs sont de la maison même, qu'il est plus difficile d'être juste hors de la maison, de l'être autour de soi, avec des voisins disputeurs pour les limites, etc. Notez que la vie de la Perse tenait aux limites invisibles des eaux qui couraient sous la terre. Que d'intérêts il faut respecter là, d'une eau si rare. Tous sont avares, jaloux. La vive tentation naît partout, et les détournements faciles. Que la distribution des eaux soit régulière, c'est preuve de grande loyauté. On est saisi d'admiration lorsque, dans Hérodote, on lit que, de son temps, un immense système existait de 40 000 canaux qui couraient partout sous la terre. Ouvrage merveilleux, vénérable, de travail, de vie méritante, de moralité, de justice. Que la justice est bonne, riche de sa nature. Comme une source surabondante, elle déborde en humanité. De la loi s'engendre la grâce. Dans cette Perse qui semble exclusive, où la parenté, la pureté du sang, l'orgueil de famille, de tribu, semble très fort, l'inconnu n'est point un hostis, comme Rome qualifie l'étranger. La fille errante, inconnue, qu'on amène, est protégée et garantie. Tu chercheras son origine, son père, et si on ne le trouve, on ira au chef de canton. Vous nourrissez, vous tenez pour sacré la femelle du chien qui garde la maison, et vous ne nourririez pas cette fille qui vous est livrée ? Oui, ce fut sans nul doute le jardin de justice où fleurissait l'arbre de vie. On s'associe de cœur à la défense de ce monde sacré, au grand combat du bien qui défendait ce paradis. L'armée du bien, faite à l'image de la Perse, divisée en tribus, marche sous 7 esprits, 7 chefs, les brillants enchapants, dont les noms mêmes sont ceux de 7 vertus. La science ou le maître savant Hormuz, la bonté, la pureté, la vaillance, la douceur libérale, les génies de la vie, producteurs, vivificateurs, les Ized, génies inférieurs, les ferouères, on pourrait dire des âmes ailées, les anges, des justes, même ceux des bons animaux purs, forment l'immense armée du bien. En face, le monde des serpents, des loups, des chacals, des scorpions. Regardons la bataille dans le tableau grandiose et fidèle qu'en fait Edgar Quinet d'après les textes mêmes. tous les êtres y concourent. Au bout de l'univers, le chien sacré qui veille sur le troupeau des mondes terrifie le chacal maudit de formidables aboiements. L'épervier, à la vue perçante, la sentinelle du matin, a poussé son cri, bat de l'aile. Il aiguise son bec pour le combat de la colère. Le cheval se dresse, frappe du pied l'impur. Les étoiles au ciel même sont en deux bandes ennemies. Mais l'oiseau, au pied d'or, couvre de son aile le saint royaume d'Iran. En vain, au désert de Gobi, souffle, siffle les monstres, couleuvres à deux pieds, griffons, centaures qui lancent le dévorant Simoun. La lutte est même au fond des êtres. Chacun a son esprit, son ange. Une âme lumineuse étincelle dans le diamant. La fleur a son gardien. Tout, jusqu'au poignard, a le sien. Sa lame vit. Et tout cela combat, se poursuit, s'atteint, s'exorcise, se blesse d'anathèmes et de magiques incantations. Les dèves au corps d'airain, les darwanes au repli de serpents, combattent au plus haut les blancs ferroères, les amchapans aux ailes d'or. Le choc de leurs armures résonne et retentit. Spectacle merveilleux, mais nullement confus. De plus en plus, il s'éclaire et s'ordonne. L'armée du bien se serre et s'unifie. Le premier des sept amchapans, de moment en moment, prévaut, éclate et resplendit. Toute la lumière se concentre en lui. La nuit, vaincue et toujours décroissante, circonscrite plus étroitement, fuit avec Ahriman. Heureuse religion de l'espoir, non d'espoir inactif, de paresseuse attente, non de somnolent ascétisme, mais la foi héroïque, de vaillante espérance, qui crée ce qu'elle attend et veut, qui, par le travail, la vertu, diminue chaque jour Ahriman, grandit Hormuz, conquiert et mérite l'unité de Dieu. Faire la victoire de Dieu, le faire vainqueur, le faire unique, ô belle chose, la plus haute à coup sûr que jamais rêva l'âme humaine et la plus efficace pour grandir dans la sainteté. Dire à chaque sillon, je m'unis au grand laboureur, j'étends le champ du bien, je resserre celui de la mort, du mal, de la stérilité. Dire à l'arbre qu'on plante, soit dans 100 ans la gloire d'Hormuz et l'abri des hommes inconnus. Dire aux sources de la montagne qu'on évoque ou dirige, allez, puissiez-vous de mon champ porter la vie en bas, aux tribus éloignées qui, non sachant l'auteur, diront, c'est l'eau du paradis. Voilà qui est grande et divine, une haute société avec Dieu, une belle ligue, une noble conquête. L'autre va reculant, vaincu, déconcerté. Ahriman, tout à l'heure, n'est plus qu'un nuage noir, une vaine fumée, un brouillard misérable, moins un point gris dans l'horizon. Digne prix du travail. Dans le paresseux Moyen-Âge, Satan grandit toujours. Nain d'abord, si petit qu'au temps de l'Évangile, il se cachait dans les pourceaux. Il grandit en l'an 1000. Et grandit tellement qu'en 1300, 1400, il a enténébré le monde, le tient noir sous son ombre. Ni le feu, ni l'épée n'en peut venir à bout. Pour les amis de Zoroastre, c'est exactement le contraire. À travers tant de mots, travailleurs résignés, le guèbre, le parsi, ont cru de plus en plus qu'Ahriman pâlissant, sous peu va défaillir, et fondre absorbé dans Hormuz. Du premier jour, celui-ci révéla qu'il était le vrai roi du monde, le futur vainqueur, le seul Dieu. Par quoi ? Par sa bonté immense. Il commença la guerre par vouloir sauver l'ennemi. Il pria Ahriman d'être bon et d'aimer le bien et d'avoir pitié de lui-même. Depuis, sa grâce infatigable le somme à chaque instant de changer, de se convertir, de faire son salut, d'être heureux. Un homme, certainement indulgent pour l'Église du Moyen-Âge, Jean Reynaud, avoue ici loyalement que, de la Perse à elle, il y eut un étrange progrès, terrible, en sens inverse. L'idée de l'enfer éternel, d'un Dieu dont la vengeance jamais ne s'assouvit, d'un Dieu qui, pour bourreau, a l'imprudence de choisir justement celui qui abusera le plus de ce métier, l'immonde et le pervers qui se régalera des tortures, y trouvera un exécrable jeu. Conception étonnante, propre directement à ensauvager l'homme, à l'affoler, et qu'on peut appeler une éducation pour le crime. Quand on songe combien l'homme est un être imitateur, on doit bien regarder au type divin qu'on lui propose, et qu'il suivra certainement. Un Dieu bon et clément fait des hommes doux et magnanimes. S'ils combattent, ils savent que c'est pour le bien de l'ennemi même. Ce méchant qui plus tard ne sera plus méchant est moins haï dès aujourd'hui. Il sera le bon demain. Que la guerre continue, c'est chose secondaire. Le grand, l'essentiel, c'est la suppression de la haine et l'adoucissement des cœurs. Nombre de grands esprits d'aujourd'hui l'ont senti et se sont, sans détour, ralliés à cette foi qui est évidemment la vraie, qui vit immuable et vivra. Je prétends, dit Quinet, qu'il n'est point aujourd'hui d'idée plus vivante en ce monde. Tout cœur d'homme ici se ralliera. Tous, le matin, le soir, sans hésiter, répéteront les plus antiques hymnes de Lierxna sur la conversion d'Ahriman et l'unité définitive. Hormuz, fais-moi la grâce, la joie de voir celui qui fait le mal en venir à comprendre la pureté du cœur. Donne-moi de voir le grand chef des Darouanes n'aimer plus que la sainteté et dire à jamais la parole parmi les démons convertis.